J'en profite pour rappeler, si quelques-uns parmi vous souhaitent recevoir le programme des cafés scientifiques et des films qui passent à l'Astrée, vous pouvez donner vos adresses mail à M. Fourdinier qui est là. Et du coup, ça vous permettrait de recevoir tout le programme de l'année. Oh, j'avais soif, il fait tellement chaud. Il fait chaud, toi, hein ? Bon, tout le monde est... Voilà, donc vous donnez votre adresse mail à M. Fourdinier, qui c'est le monsieur habillé tout en noir, là. Voilà. Oui, il est en train de noter. Bon, les gens, ils veulent... Voilà, le débat reprend, si vous voulez. Voilà, moi, là, ça suffit. Hein, oui, c'est fini. Hein. Oui. Ça y est, j'y vais. Bien. Donc, nous allons reprendre le débat. Alors, nous parlions tout à l'heure des étapes de la scolarité, des établissements, des aides. Est-ce que quelqu'un a une question maintenant, là, pour... Alors, le micro... Monsieur Walton, excusez-moi. Philippe, tu passes le micro à madame ? Excusez-moi. Parce que j'ai pas le droit de vous donner le mien. Allez, nous vous écoutons. Ça marche pas.
Ah bon. C'est pour savoir si le gluten peut aggraver la situation. Parce que bon, on voit des écrits sur ce sujet. Est-ce que c'est sérieux ou non pour certains ou voilà.
Bon, ben
donc l'aspect alimentaire, en fait, les régimes D'accord. alimentaires, parce qu'il n'y a pas que le gluten, les régimes alimentaires qui peuvent aggraver les aspects autistiques, quoi. Voilà. Oui, ou autre.
Ça marche, là ? Bernard ?
Allô.
Ça y est, ça marche.
C'est mieux, là ?
Voilà.
Le gluten... Donc, il y a des éléments qui font partie de l'état des connaissances consensuelles sur l'autisme, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas scientifiquement recommander de faire un quelconque régime pour traiter d'une manière ou d'une autre l'autisme. Gluten, phosphate, sucre, lactose, tout ce qu'on veut. Aucun des régimes sans X ne traite d'une manière ou d'une autre, scientifiquement, il n'y a aucune preuve qui permet de recommander un régime sans gluten ou sans autre quelque chose. Donc, on ne le recommande pas. Voilà. Alors après, ça c'est, on va dire, les études montrent ça. Ça, les études, c'est sur des groupes de personnes. Et c'est statistique, une étude. Individuellement, on a tous dans nos... dans toutes les familles que l'on rencontre, des familles qui vous disent, moi, mon enfant, il ne dormait pas, il était très agité, et depuis que je l'ai mis sous régime sans gluten, eh ben, il dort et il est moins agité. Et ça, c'est... Voilà. Vous avez des familles qui vraiment vous disent, c'est indéniable. Je vois la différence, et chaque fois que je réessaye de mettre du gluten, ça serait grave. Je n'ai pas de raison de penser que ces familles se trompent. En disant ça, elles l'observent. Donc, ce qu'elles observent, c'est forcément basé sur une réalité. Et on sait aussi qu'il y a de nombreux enfants qui sont porteurs d'autisme, qui ont beaucoup de troubles digestifs. Le système digestif, la digestion est souvent très perturbée avec des selles molles fréquentes, des diarrhées, etc. Donc forcément aussi de la douleur. On disait tout à l'heure, la douleur, c'est comme les émotions. Ça peut s'exprimer de manière très compliquée à décoder pour une personne neurotypique. Donc on sait qu'on se trompe souvent sur la douleur des personnes avec autisme. Donc dans le doute, il vaut mieux considérer qu'on sous-estime la douleur plutôt que le contraire. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne peut pas, nous, médecins, le recommander, parce qu'il y a aussi, c'est compliqué à faire un régime sans gluten, etc. Mais quand un enfant a des troubles digestifs avérés ou des troubles du sommeil et qu'on ne veut pas donner des traitements toute la vie pour les troubles du sommeil, alors que les troubles du sommeil, c'est extrêmement invalidant et qu'un régime permet d'améliorer ça sans trop de dommages pour la croissance de l'enfant, avec quelque chose de bien suivi sur le plan diététique et alimentaire, individuellement, ça peut tout à fait se discuter. Voilà. Mais ça ne peut pas être recommandé à un groupe général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, vous venez ici et, en consultation et je vais vous recommander un régime X ou Y pour votre enfant. Tout ça, le recommander, parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmement farfelues qui se développent, parce que chaque fois qu'une personne, les personnes sont en situation de vulnérabilité, il y a toujours des petits malins qui se disent, tiens, je vais pouvoir faire de l'argent avec ça. Donc, il faut savoir quand même que il y a beaucoup de petits malins qui ont fait beaucoup d'argent sur des analyses biologiques extrêmement farfelues, sur des régimes. Il y a encore aujourd'hui des gens qui vendent des pro-machins, des pro-trucs, etc., qui sont des produits qui, dans le meilleur des cas, n'ont pas de nocivité parce qu'ils n'ont rien de bactériologiquement répréhensible, il n'y a pas de poison dedans, mais il n'y a rien dedans. Voilà, donc... il faut quand même être très soucieux de préserver la santé des enfants et des adultes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de régime anarchique qui se développe sans aucune justification. Donc quand une famille souhaite à un moment donné qu'on puisse mettre en place un régime, il faut le faire sous surveillance médicale, surveillance pédiatrique, faire en sorte qu'on vérifie effectivement les constantes biologiques, etc., de manière régulière, et surtout vérifier que ça sert à quelque chose. Parce que c'est compliqué à faire ces trucs-là. Pour toute la famille, c'est compliqué. Donc, le faire à très long terme, ça suppose qu'on le fasse sur des éléments objectifs vraiment, vraiment fiables.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation. Formation aux aidants, formation auprès des professionnels, dans les écoles, etc. Mais à partir du moment où l'enfant passe plus de temps de sa vie avec les parents, est-ce que les parents ne sont pas oubliés ? Comment les forme-t-on ? Non, mais c'est très bien. Est-ce qu'il existe des formations pour les parents ?
Oui.
Et comment on les accompagne ?
Peut-être les parents, il y a des parents dans la salle qui connaissent ces formations et qui peuvent peut-être témoigner, mais... On va laisser témoigner de ces formations.
Moi, je peux témoigner parce que donc, j'ai pu bénéficier de la première session de formation donc, pour les aidants, donc, organisée donc, par rapport au plan de l'autisme, hein, c'est ça, organisée par le CESA. Donc, c'était sur 10 séances le mercredi. C'était très enrichissant. Ça a donc débattu sur, ça nous donnait des outils donc sur pas mal de thèmes, les apprentissages, les loisirs, l'accessibilité à la communication. Après, ce qui n'est pas évident dans ces formations, c'est que comme il y a différentes formes d'autisme, et pour essayer que ça touche en fait tous les enfants et les parents, voilà, donc on avait en fait plusieurs pistes. Après, on prend ce qu'on a besoin en fin de compte, hein, voilà. Mais avec une super intervenante, hein, Mélanie Crozet-Licata, pour ne pas la citer, psychologue clinicienne parfaite. Et ce qui était bien aussi, c'était d'avoir des échanges aussi entre parents, parce que pour le coup, on se sent un peu moins seul. On se rend compte que on n'est pas tout seul dans notre... des fois, nous, notre monde un petit peu spécial, on va dire. Et ça faisait vraiment du bien. Pour le coup, moi, je sais qu'après, ça m'a manqué. Mais c'est pas que pour les parents, ça peut être aussi pour les grands-parents et puis pour les aidants, on dit, hein, voilà, c'est pas que forcément les parents. Après, moi aujourd'hui, ce qui, à titre personnel, hein, pour notre là où on est à l'heure actuelle, je trouve que par rapport à tout ce qui est école, parce que moi mon fils donc est en école classique, hein, normale. Par contre, depuis qu'il est en école normale, il n'a jamais eu affaire à une AVS ni une maîtresse formée. Voilà. Donc, pas faute de le demander, de le dire, etc. Et on se rend bien compte que même s'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont mises en place, suivant les personnes sur qui on tombe également, suivant l'envie qu'a la personne, parce que un enfant autiste dans une classe, on peut en avoir un ou deux, mais bon, il n'y a pas que lui à gérer, il n'y a pas que l'handicap de l'autisme. Mais voilà, c'est ça aussi qui est compliqué. Hein. Et en fin de compte, nous, depuis que... avec notre fils, on se rend compte qu'avec mon mari, que c'est vraiment c'est un combat, hein, c'est un sport de combat, l'autisme. Hein, faut soulever des montagnes, surtout quand ça se voit pas, y a rien de plus pire, quoi. Tu vois, tu disais une espèce de maltraitance, Colette, tout à l'heure, mais tu sais, des fois, au quotidien, sans forcément être en milieu psychiatrique, quand c'est au quotidien que, l'enfant aussi, quand il est dans un milieu ordinaire et que les personnes n'arrivent pas à comprendre ni à savoir comment le gérer, pour l'enfant aussi, c'est une espèce de... Bon, pas une maltraitance physique, si vous voulez, parce qu'il ne reçoit pas de coups ou quoi que ce soit, mais dans les mots, quand il ne se fait pas comprendre, au fil du temps, ça devient très, très douloureux, quoi. Oui, et puis pour nous, parents aussi, parce que, punaise, il y a des moments où on a envie de dire, mais oh, oui, c'est épuisant. Ouais.
Vous voulez un micro ? Oui, vous êtes enregistré. Oui.
Oui, voilà. Donc, je voulais vous dire que quand on est dans une société, c'est normal, tout le monde ne connaît pas l'autisme parce qu'en France, il n'est pas encore bien signalé à la télé, par exemple, ou des pubs ou tout ça. Donc, tout le monde ne le connaît pas. Mais quand on va dans un hôpital, on pense quand même qu'on est face à des personnes qui connaissent. Donc, c'est vrai que je la comprends tout à fait. Donc, ça fait mal, quoi.
Moi aujourd'hui donc je suis sortie donc de l'hôpital, hein, je suis totalement en autonomie par rapport au monde de psy, non, on peut pas dire ça non plus, mais disons que j'ai repris un peu le contrôle de ce genre de choses. Dans ma vie normale, on va dire, c'est vrai que j'ai aussi ce souci-là de me sentir toujours le cul entre deux chaises, on va dire. D'être d'un côté, d'avoir accès à ce monde normal, mais de pas pouvoir y avoir accès quand même parce que j'ai un handicap, j'ai une différence. Et quand je me dirige effectivement vers les aides dont j'ai droit, hein, puisque je suis reconnue auprès de la MDPH, et que je me dirige vers le monde adapté, enfin ou théoriquement adapté. Je ressens aussi un rejet parce que, pareil, je ne suis pas assez handicapée, entre guillemets, pour y avoir accès. Et le peu de fois où je pourrais y avoir accès, je ne veux pas non plus y avoir accès parce que il y a toujours une dévalorisation de dire, parce que tu es handicapée, tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Alors que moi, j'ai envie quand même d'essayer. Et on m'interdit d'essayer. Alors après, si je réussis, je réussis. Si je réussis pas, je réussis pas. Mais je voudrais au moins essayer. Après, on parlait tout à l'heure aussi d'essayer de comprendre. Alors effectivement, nous, on doit à un moment donné essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Bon, ok, moi je veux bien essayer de comprendre le monde qui m'entoure, m'adapter, voilà. À un moment donné aussi, je demande que le monde normal... même s'il ne comprend pas tout, hein, parce que voilà, c'est compliqué de tout comprendre, même moi je ne suis pas sûre de tout comprendre à l'autisme, je demande qu'à un moment donné, pareil, il essaye de comprendre, même s'il ne comprend pas tout, au moins il essaye. Moi je veux bien faire un pas, deux pas, trois pas, mais au bout de quatre pas, si l'autre ne vient pas vers moi, à un moment donné, ce n'est plus possible, quoi. Donc... C'est vraiment important que, même si c'est pas flagrant, qu'il y ait quand même un tout petit peu un échange entre les deux mondes, en fait. Et voilà, juste essayer. Après, on réussit, on réussit pas. Bon, voilà, après, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas... voilà. Mais juste essayer. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté par rapport à l'autisme qu'on a aujourd'hui.
Je crois qu'on a une question, là. On a une question, là.
Simplement, enfin, ça va être très court. On parlait de la formation des aidants et autres. Et très rapidement, sur les hôpitaux psy, tout à l'heure, j'ai une question qui me vient. Donc, moi, je suis en formation d'éducateur spécialisé et j'ai régulièrement discuté avec des collègues de promo qui ont été en hôpital psy et en collaboration avec des infirmières, notamment. Et il me semble, alors du coup, je voulais avoir confirmation qu'il y avait pendant de nombreuses années la formation d'infirmières psy, qui me semble n'est plus, ou voilà. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits paradoxes comme ça, où on dit que ça évolue, et à la fois dans des lieux où, effectivement, vous dites que certaines personnes avec des troubles autistiques peuvent être en hôpital psy, alors avec d'autres choses, mais du coup, sont quand même encore aujourd'hui confrontées à des personnes qui n'ont pas de formation. Et moi, mes collègues de formation d'éducateurs, en savent bien plus par moment sur certains troubles et après de manière large, mais là on parle de l'autisme et du coup on se dit qu'il y a quand même des décalages de temps en temps comme ça où à un moment donné la société de manière générale veut évoluer sur ces questions et quand on parle de professionnalisation sur certaines choses ça recule. Du coup voilà, je voulais simplement avoir peut-être cette confirmation là et puis voilà, on va peut-être pas repartir sur les hôpitaux psy non plus quoi.
Il veut répondre, une réponse ?
Oui. ce qui est, oui, c'est-à-dire que vous avez tout à fait. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'éducateurs spécialisés dans les hôpitaux. Il y en a quelques-uns. Dans l'équipe mobile autisme, j'ai justement fait appel à un éducateur spécialisé parce qu'il me semblait que c'était vraiment très important que ce corps de métier puisse être représenté comme étant en fait l'interface entre ce qui est fait à l'hôpital, essentiellement du soin. Et justement, le corps soignant est pris dans le paradoxe, puisque l'autisme n'est pas une maladie, comment soigner quelque chose qui n'est pas une maladie, puisque c'est seulement un handicap. Voyez. Et pour m'occuper d'ailleurs d'un service où nous accueillons des patients très régressés, mais ayant une problématique autistique pour bon nombre d'entre eux, l'absence d'éducateurs et de moniteurs éducateurs, enfin bon, des gens qui mènent des projets d'activité, d'occupation, d'organisation du temps pour que les personnes soit accompagné et puisse avoir des repères autres que tout simplement des soins, ça manque cruellement, voyez, mais et que le corps soignant justement est pris dans une difficulté face à l'accueil et aussi à la compréhension de Mais aussi parce que la culture de l'hôpital, c'est la culture du soin. Et alors que la prise en compte des spécificités des patients qui sont là au long cours, moi j'ai des patients qui sont là depuis des années, ils ont besoin d'autre chose, quoi. Ils ont pas seulement besoin qu'on leur donne des douches et puis qu'on occupe leur journée entre les repas. Et puis voilà. Donc, dans ce service, vous voyez, c'est-à-dire que oui, à l'école d'infirmières, maintenant, je pense que il y a une diffusion des connaissances petit à petit, mais l'effort est fait par des personnes qui essayent de diffuser à partir d'une expérience dans un service, parce que sinon les choses se font pas. Vouloir que tout le monde soit formé en même temps et que voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est il faut scoltiner la difficulté, la réalité de chaque cas parce que chaque patient est différent dans ses besoins, dans son rythme, dans ses spécificités sensorielles, etc. Vous voyez, donc voilà.
Juste une réponse à cette question, la précédente. Rapidement, effectivement, aujourd'hui, il y a un paradoxe. les formations qu'on propose aux enseignants qui font 2 fois 6 heures, ça fait 12 heures de formation, c'est pas énorme, mais c'est déjà 4 fois plus qu'un médecin, une infirmière ou un éducateur spécialisé actuellement. Donc c'est dans le plan autisme, je fais partie du groupe de suivi du plan autisme, et on y travaille sur le fait d'intégrer des connaissances déjà actualisées. Ça c'est nouveau, parce qu'on peut se satisfaire quand même. Récemment, j'ai lu sur les bouquins d'étudiants en médecine, ce qui était le chapitre sur les troubles en gestion du développement, il est nickel. Donc, il est court, mais il est nickel. C'était déjà un gros progrès. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quelqu'un qui vient faire une formation dans le cadre spécifique du CESA ou d'autres formations sur la base du volontariat est plus formé qu'un médecin qui sort de ses études de médecine. C'est un paradoxe, mais c'est vrai aussi pour les éducateurs spécialisés. Je travaille actuellement donc dans le groupe national où on essaye de faire évoluer ça. C'est un enfer d'un point de vue administratif parce que toutes les écoles d'éducateurs spécialisés sont gérées par des établissements tous très différents, pas tous fédérés par la même fédération. Donc pour arriver à faire évoluer un corpus théorique correct et suffisamment qualitativement et quantitativement, d'un point de vue strictement administratif, c'est très compliqué. Donc on y travaille, c'est dans le plan, mais effectivement on n'y est pas encore. Et juste tout à l'heure, la question, il y avait quelque chose de très très, très important et très juste qui avait été dit dans la question, c'est quand on s'occupe des petits, les petits passent plus de temps avec leurs parents qu'avec quiconque. Et donc il faut aider les aidants, et les parents en particulier. C'est vraiment une piste de travail énorme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut, notre objectif, qui n'est pas atteint, hein, c'est de dire à 18, entre 18 et 36 mois, on fait le diagnostic et tout de suite, on met en place cette aide aux aidants. On a des groupes là, on évoquait les groupes pour les grands. On a aussi des groupes pour les petits avec d'autres psychologues parfaites, dont certaines sont là d'ailleurs, et qui travaillent sur la question de comment accompagner les tout-petits. Il y a différentes techniques, comme par exemple la technique de Denver, qui est un modèle importé des États-Unis, qui est vraiment un travail, ou alors il y a des modèles aussi, on parlait tout à l'heure des Pays-Bas, un modèle Focus, qui sont des modèles qui ont tous en commun de dire, dès le tout-petit, notre travail, il ne va pas être de lui donner 3 quarts d'heure de ceci ou cela par semaine. Notre travail, c'est tout de suite de donner les outils aux parents, qui eux vont être là du début, du matin jusqu'au soir, pour qu'ils puissent aider l'enfant à s'engager dans le regard, s'engager dans l'attention conjointe, à s'engager dans une interaction de jeu, etc. Leur donner les outils pour qu'ils puissent répéter ça tout au long de la journée, dans un mode naturel, dans un mode intégratif, dans un mode le plus naturel possible dans une vie familiale, mais avec quand même toute cette notion de stimulation. Donc c'est vraiment aujourd'hui notre travail premier. Alors, c'est d'essayer de faire en sorte que le diagnostic soit là précocement, ça veut dire tout un travail en amont avec les médecins généralistes, les pédiatres, la PMI, etc. Tout un travail aussi de connaissance pour que les gens y pensent simplement dans le grand public, et de faire en sorte ensuite que les parents aient tout de suite les outils le plus précocement possible pour aider leur enfant à développer avec les moyens dont ils disposent, qui sont génétiquement parfois altérés, mais qui peuvent quand même se développer en utilisant d'autres circuits, la plasticité neuronale qu'on évoquait.
Je crois qu'on avait une question.
En fait, c'est plus pour revenir sur la question des soins dont on parlait tout à l'heure. Enfin, je trouvais intéressant, justement, parce que c'est vrai que la définition de soins est vaste, je trouve. Enfin, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit, tout à fait. Juste ce que je pensais ajouter, c'est que c'est pour moi, en tout cas en tant qu'ASPI, c'est un peu plus grand que ça. C'est aussi se combler le manque, peu importe de communication, de problèmes moteurs, mais aussi se trouver soi-même. Du fait que, et là je crois que je rejoins un peu ce que Colette disait tout à l'heure, c'est... Moi, ma manière de le dire, ça a été que pendant très longtemps, c'était un peu, je faisais sans, j'étais moi, mais pas moi, en fait. Je prétendais être quelqu'un que je ne suis pas, avec des règles qui ne sont pas les miennes, dans un monde qui n'est pas le mien. Et c'est vrai que toutes les méthodes dont on parle, que ce soit celle de Denver, que ce soit d'autres méthodes, aident pour combler le manque et sont essentielles. pour nous en tant qu'autistes, mais aussi un autre détail et qui relève la question de soi aussi, c'est de se trouver soi-même, de s'aider à se découvrir, que ce soit les parents qui aident ou l'entourage. Parce qu'on passe, enfin moi personnellement, je suis en train de passer par une période où maintenant j'ai appris un peu toutes les règles d'habileté sociale, les conventions. Mais du coup, j'avais plus d'identité. Enfin, je me retrouvais pas. Et maintenant, je suis en train en fait de réapprendre à être moi, en fait. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'en France, on n'a pas encore fait le pas dans cette direction. Mais tout ce dont on parle ce soir, c'est peut-être le premier pas vers ce pas ultime pour nous aider à nous insérer mieux dans cette société, à juste apprendre à être nous selon nos règles et se sentir respecté en même temps. C'est parce que l'autisme, c'est pas, comme on dit, c'est pas une maladie, c'est un handicap parce que on n'est pas inséré, mais c'est une différente perception. Les gens n'aiment pas le chocolat, n'aiment pas le café. Nous, on n'aime pas la couleur de la moquette. Donc c'est une différente perception, mais une qui choque. Et je pense que justement, la question de soins, c'est une combinaison des deux, de pallier au manque, mais aussi de se trouver soi-même, d'apprendre à se respecter soi-même à travers la tolérance des autres.
Je pense aussi qu'il y a une notion de soins que le corps médical a du mal à accepter, on va dire. Dans les hôpitaux ou quand on va voir un psy ou un médecin, c'est vrai que la notion de soins, bah, c'est effectivement des médicaments, c'est des piqûres, c'est la douche, c'est voilà. Et finalement, bah, cette notion comportementale, d'éducation à savoir qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux l'âger, enfin pas la maladie, excusez-moi. En plus, c'est moi qui a fait la remarque. En plus, c'est moi qui a fait la remarque. Le handicap. Donc, qu'est-ce que c'est le handicap ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour mieux le gérer ? Gérer les apprentissages liés à ce handicap. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, bah voilà, à un moment donné, il faut bien qu'il apprenne à manier son fauteuil roulant pour que ce soit au mieux. Après, il n'a pas forcément besoin de piqûres ou de médicaments ou de douche, enfin si, il a besoin d'une douche, mais voilà, peut-être qu'un jour il saura se débrouiller tout seul pour prendre sa douche aussi. Et voilà, et à l'hôpital psychiatrique, moi, ce que j'ai vécu, alors peut-être que ça évolue dans certains services, c'est effectivement bah, purement ce soin de médicamenteux et pratico-pratique, pur, basique, voilà. Et on a vachement du mal à mettre ça au niveau, effectivement, d'être humain et d'individu qui a besoin d'autre chose, du basico-basique de soins et qui a besoin aussi de se développer personnellement et avec soi et avec les autres. Effectivement, moi les quelques fois où j'ai pu exprimer mon envie de sortir de l'hôpital et de voir un peu autre chose, on me regardait bizarre en disant « Mais ma pauvre fille, jamais tu pourras mettre un pas dans ce monde entre guillemets normal. T'es trop attardée, trop malade, trop... » Enfin, voilà. Et voilà, et je pense aussi que c'est ça qui manque dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ce tremplin entre, bah voilà, ok, t'es malade, ok, voilà, t'as une dépression, c'est une maladie, ok, t'as besoin de soins, parfois, effectivement, t'as besoin de médicaments. Alors, effectivement, même au sein de l'hôpital psychiatrique, je pense que c'est... Bon, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon je vais encore m'énerver. Mais une fois que ça c'est fait, il faut un tremplin vers le monde extérieur et ça non plus on l'a pas
et on n'a pas de soutien. Et effectivement, c'est aussi pour ça que ma dépression a duré aussi longtemps, c'est que les quelques fois où j'ai mis un pied dehors, et ben, je me suis sentie complètement abandonnée. Et voilà.
Ça, c'est un point très, très important, mais je pense que c'est Mike Bolton qui pourrait mieux en parler que moi. Alors juste un point, c'est bon, toujours bon à savoir, il n'y a pas de traitement médicamenteux de l'autisme, on est bien d'accord. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Oui, oui. Non, c'était juste pour le public, pour que tout le monde soit clair avec ça. Ça n'existe pas. On n'a pas aujourd'hui de traitement de l'autisme. Les personnes avec autisme ont une vie psychique comme tout le monde, donc il leur arrive d'être anxieux, dépressif, etc. Ils peuvent éventuellement bénéficier, comme tout le monde, de traitement. Même si la plupart du temps, ils ne fonctionnent pas exactement comme chez tout le monde. Donc, on ne peut pas les utiliser exactement de la même manière, ce qui déconcerte d'ailleurs beaucoup les psychiatres d'adultes qui ne connaissent pas l'autisme, parce que effectivement, les réactions au traitement ne sont pas du tout similaires aux réactions des personnes neurotypiques. Donc là, il y a une connaissance aussi à acquérir. Juste un point qui est extrêmement important, c'est, vous l'avez souligné, c'est le fait de dire il faut aussi que la société, elle se prête à quelque chose, quoi. Elle fasse un pas. Et là, on a beaucoup travaillé depuis des années, maternelle, les tout petits, les plus grands. Après, on s'est coltiné le collège, maintenant le lycée. Alors, je ne dis pas qu'on a gagné sur tous les tableaux, mais quand même, on a vachement avancé. Maintenant, on en est à, maintenant que cette génération a grandi, qu'est-ce qu'on fait avec la vie d'adulte, la vie professionnelle, l'autonomie, l'habitat, etc., etc. Et là, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs qui se mettent en place, mais qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas tous d'aplomb pour accueillir. Il faut des dispositifs spécifiques. Il faut aussi, vous utilisiez le terme d'ASPI tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, il y a des pays, vous dites « je suis ASPI », dans une boulangerie, n'importe où, ben, les gens savent ce que ça veut dire. Ils savent qu'il y aura peut-être des particularités relationnelles, mais ce n'est pas grave. On n'est pas décontenancé. En France, on n'en est pas encore là. Ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment passé dans le langage courant et qui peut être dédramatisé au point de permettre, effectivement, vous disiez, laissez-moi ma chance, au point de laisser effectivement une chance de montrer qu'on est capable de faire des choses alors que peut-être, dans un premier temps, on n'est pas capable de se vendre correctement dans un entretien d'embauche, on n'est pas capable de montrer à quel point on a des qualités. Effectivement, pour une personne ASPI, c'est très difficile de montrer qu'on a des qualités professionnelles. Et aujourd'hui, avec la tension sur le marché du travail, etc., etc., quelqu'un qui n'arrive pas à être the best, qui n'arrive pas à montrer, à se valoriser au maximum, ben, il est particulièrement en difficulté pour trouver, accéder à l'emploi. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des aides, qu'il y a aussi des dispositifs spécifiques. Mais il y a tout un chemin à faire et le chemin vers l'insertion, l'inclusion la plus normale possible des personnes dans le secteur de la vie d'adulte, de la vie... la plus ordinaire d'une personne de plus de 18 ans, c'est vraiment l'enjeu du moment. Mais les dispositifs pour les adultes, c'est ton rayon.
Mon rayon. Et justement, puisqu'on est à l'âge adulte, comment ça se passe au niveau de l'emploi? Est-ce qu'il y a des profs qui sont autistes? Est-ce qu'il y a des médecins autistes? Comment ça fonctionne? Des psychiatres autistes.
Alors, oui à toutes les propositions.
Et comment ça fonctionne au niveau de l'emploi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi? Alors, l'équipe mobile commence à mieux connaître la problématique, on va dire, hein, de l'insertion socio-professionnelle. En France, les dispositifs pour les personnes handicapées est assez balisé. Hein. Vous avez d'abord, il faut d'abord passer par une reconnaissance du handicap. Donc ça passe par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, qui se trouve à Buisson-Ron, où la personne ou la famille dépose un dossier épais avec un certificat médical attestant et argumentant la nature du handicap. Puis la MDP. Alors dans ce dossier très très épais, vous avez une question qui concerne le travail, c'est-à-dire la personne handicapée doit avoir ce qu'on appelle une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Suite à quoi, on ouvre deux possibilités, deux voies possibles. La première, c'est une insertion dans la vie professionnelle normale, vie ordinaire, on dit ordinaire, on ne dit pas normal, ou il existe, comme vous le savez, dans la législation française, la place qui est réservée pour des personnes handicapées dans les grandes entreprises. Dans les entreprises au-delà de, je crois que c'est 50 employés, il y a des places réservées pour les personnes handicapées. Si ces places ne sont pas occupées, l'employeur paye il paye une amende. Il y a un certain nombre de places chez des employeurs qui sont réservées pour les personnes handicapées moteurs ou psychiques. Voilà. Bon, alors l'expérience du psychiatre j'ai quand même rempli un certain nombre de dossiers. C'est que finalement, dans le milieu dit ordinaire, il y a peu de place pour les personnes handicapées psychiques en général. L'insertion est difficile. Déjà pour les personnes dites normal, le travail, c'est pas quelque chose de simple. Donc, pour quelqu'un qui est particulièrement vulnérable, même un poste protégé, comme on les appelle, est délicat. Il y a le regard des autres, il y a les exigences, il y a la nécessité de répondre à des critères, il y a le stress que nous gérons au prix d'avoir de temps en temps une hypertension artérielle ou autre problème en lien avec le travail. Mais des personnes vulnérables ont beaucoup de mal à trouver une place dans le milieu ordinaire. Bon. Ensuite, vous avez, et c'est là où effectivement il y a beaucoup plus de débouchés, entre guillemets, ce sont dans les centres d'aide pour le travail, ce qu'on appelle maintenant les ESAT. Voilà. Là, ce sont c'est en lien avec des associations comme l'APEI qui ont des véritables petites usines avec différentes corps de métier qui sont encadrés par des moniteurs d'atelier et qui produisent, du coup, sont dans l'appareil de production. Et qui produisent des sachets de vis. En Maurienne, c'est l'emballage de filtres pour les hôtes aspirantes. Ils ont un restaurant qui accueillait jusqu'à peu de temps, parce qu'ils ont perdu le monopole, qui accueillait les écoles et où il y avait un restaurant qui était en fait où les gens dans les cuisines étaient des personnes handicapées. Ceci dit, pour des personnes, porteurs d'un autisme, ces endroits sont peu adaptés pour plein de raisons, notamment par rapport à la fréquentation mixte de ces centres d'aide par le travail, de handicaps différents. Qui sont parfois pas faciles à mettre ensemble. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est extrêmement bruyant. Il n'y a absolument aucune étude faite, j'allais dire, de manière sérieuse sur l'ergonomie qui pourrait s'adapter à la personne autiste, à savoir une atténuation du bruit, des lumières tamisées, une moquette de couleur convenable. Voilà, des tas de petits détails, des repères aussi, des repères voilà, dans l'organisation des tâches à accomplir, des repères qui tiennent compte donc du coup de la spécificité, du regard un peu morcelé qu'a la personne handicapée autiste sur l'environnement, hein, qui ne perçoit pas globalement la situation, mais qui la perçoit par une espèce de mosaïque de perception comme ça. Donc voilà, ça c'est une réponse à donc enfin c'est le cadre de votre question. Maintenant, pour dire qu'effectivement c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais qui est pris en compte maintenant par le Centre régional de l'autisme à Lyon, qui fait un gros travail, et notamment qui a une comment est-ce qu'il faut appeler ça, une entité qui travaille sur l'insertion socio-professionnelle et qui travaille ardemment pour pour essayer d'ouvrir le monde du travail à des personnes qui ne sont pas qui sont pas faciles à intégrer du fait de leur spécificité. Et les choses avancent très lentement, certes, mais il y a des employeurs qui sont partants et qui sont prêts à marcher dans l'aventure. Et puis en Savoie, pour l'instant, pour revenir à la Savoie, parce que je parlais du Centre régional pour l'autisme, il y a beaucoup de choses en Isère. Hein, plus de choses en Isère. Ben, nous, on essaye de travailler là-dessus. Et c'est justement notre éducateur spécialisé qui travaille particulièrement, ardemment, pour essayer de trouver des lieux d'accueil et de valorisation par le travail de certains de les personnes qu'on suit, quoi.
Là, je voudrais juste dire que à l'UNAFAM, le 9 avril, on a une conférence gratuite au Bourget à la Motte Saint-Volex, dans les locaux Pervenche du Crédit Agricole. C'est donc handicap psychique et monde du travail. Donc il y a entre autres le docteur Pachou, qui est un psychiatre de Paris, qui est pour l'insertion professionnelle et la réhabilitation. Et il y aura Messidor. C'est donc une association qui s'occupe de la réinsertion. Donc peut-être ça peut toucher aussi les personnes. C'est vrai que l'autisme Asperger et monde psychique, je vois beaucoup de choses parallèles. Hein. Similaires, pardon.
Excusez-moi. Moi, effectivement, la plus grosse difficulté que je rencontre par rapport à l'emploi aujourd'hui, c'est la paperasse et toutes les démarches potentiellement administratives qu'il y a autour. Alors effectivement, quand on a la chance d'avoir ses parents à côté de soi et qui veulent bien nous faire notre paperasse, bon, ça va à peu près. Quoique des fois, même les parents, ils s'arrachent les cheveux. mais quand voilà, on est un tout petit peu éloigné et qu'on ne peut pas venir toutes les semaines chez nos parents ou les parents venir toutes les semaines pour vérifier notre paperasse, voilà, donc on a parlé du dossier MDPH qui est assez épais et même en le remplissant comme il faut, on n'est même pas sûr d'avoir toutes les aides voulues. Ensuite, pour avoir accès à l'emploi, on nous demande d'être inscrit à Cap Emploi. Donc pour être inscrit à Cap Emploi, il faut être inscrit à Pôle Emploi. Donc Pôle Emploi, on nous demande de faire un dossier d'inscription. Après, donc Pôle Emploi nous renvoie sur Cap Emploi où il faut encore sans doute faire un dossier d'inscription. Et après, pendant donc notre suivi à Cap Emploi, on nous demande de faire la navette entre Cap Emploi et Pôle Emploi parce que les deux entités doivent se rendre des comptes et ils ne savent pas faire la navette eux-mêmes. Donc moi, j'ai eu cette expérience. Hein, donc au bout d'un moment d'actualisation et de non-actualisation que chacun demandait, j'ai lâché l'affaire parce que effectivement je faisais plus de paperasse pour eux que pour mes recherches personnelles au niveau de la formation et de l'emploi. Voilà, donc au-delà de l'aspect humain et organisationnel, d'une fois qu'on a, soit on est sur le point d'avoir le poste, et donc c'est l'entretien d'embauche, soit on est dans le poste et effectivement il y a potentiellement besoin de faire quelques adaptations d'organisation et autres. Avant, effectivement, rien que la recherche d'emploi en elle-même et l'inscription donc dans le réseau de recherche d'emploi classique, ça pose déjà énormément de problèmes.
On s'y était un peu. On a créé une plateforme qui s'appelait la plateforme 1625. On a essayé pendant un an de comprendre comment ça fonctionnait. Je vous rassure, on n'a pas trouvé juste une personne qui était capable d'avoir une vision globale du dispositif tellement il était complexe. Donc on s'y est mis à plusieurs, on a travaillé ensemble à se faire connaître le dispositif, mais le temps qu'on comprenne le dispositif, on nous a expliqué qu'il avait changé en fait. Parce que, en fait, exactement, Cap Emploi propose plein de choses différentes. Pas tout est très adapté à l'autisme, mais en tout cas, plein de choses différentes quand même. On ne peut pas dire qu'ils ne proposent pas des choses. Mais effectivement, ça change sans arrêt. Et les dispositifs ont des noms compliqués et ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Enfin, avec des enfin je vous passe le détail, mais je vous assure qu'on a mis 6 mois à comprendre comment ça fonctionnait et que, pour de vrai, on nous a dit, maintenant que vous avez compris, sachez que vous pouvez tout effacer. Parce qu'en septembre, c'est de nouveaux dispositifs qui n'auront pas les mêmes noms, mais ils sont un peu pareils, mais pas tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est une... C'est assez difficile de pouvoir s'y repérer. C'est pour ça qu'on essaye de développer des dispositifs un peu spécifiques.
Donc, nous avons une question.
Oui. Bonsoir tout le monde.
Rapidement avant.
Je voulais d'abord remercier le docteur Bolton d'avoir utilisé le mot ordinaire et pas le mot normal, parce qu'on m'a fait tellement sentir pendant mon adolescence que j'étais soi-disant anormale, que je déteste ce mot. Donc, merci beaucoup. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Colette tout à l'heure, sur le sentiment d'abandon. Je pense que tout le monde dans cette salle a un jour ressenti une solitude, malgré le fait d'être entouré, que tout le monde s'est senti seul. Je pense que quand on est autiste, c'est démultiplié. En tout cas, personnellement, je me suis même sentie seule dans ma propre famille et dans la société, bien sûr. Et quand on sait qu'on est différent des autres, qu'il y a un décalage, mais que personne nous explique pour tout, pardon, que personne n'explique pourquoi, c'est vraiment pas facile à vivre. Et pour finir, parce que autrement, si on me laisse parler, j'en ai pour des heures et on est encore là demain matin. Je dirais juste que, pour utiliser une image concrète, j'ai l'impression d'être derrière une vitre et de ne pas pouvoir atteindre les autres et que les autres ne m'atteignent pas. Et ce n'est pas facile tous les jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Merci pour votre témoignage. Je crois que nous n'allons plus prendre de questions. Monsieur Bolton voulait...
Oui, merci beaucoup, hein, parce que c'est... C'est, comment on dit en anglais, inside view, comment on dit en... Voilà, vous avez dit ce que vous vivez. Je voudrais revenir juste deux minutes, sur la question du travail. Parce que, bon, depuis tout à l'heure, ça me traverse là. Je me dis, bon, là, j'ai donné une réponse un peu, j'allais dire, sociologique et explicative de comment ça marchait. Mais enfin, ce n'est pas la réalité. Et puis, surtout, ce que je peux dire en tant que médecin, c'est que, médecin m'occupant par ailleurs de problématiques liées au travail, comme Elisabeth d'ailleurs, mais... Dans une autre vie, on va dire, c'est que, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi ici, hein, le travail n'est pas thérapeutique. Il n'est pas thérapeutique. Le travail est source et nécessite des capacités d'adaptation inouïes. Reprenons tout le travail qui a été fait par Christophe Dejour sur la psychodynamique du travail. Alors, je voudrais dire ça parce que je pense que effectivement, il y a à travailler sur l'insertion socioprofessionnelle. Mais n'en faisons pas un mythe. Ne créons pas un mythe du travail qui serait salvateur. Pourquoi ? Bah parce que, regardons autour de nous, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et que, par exemple, l'ESAT de Saint-Jean-de-Maurienne, enfin de la Chambre plus exactement, je ne sais pas si quelqu'un connaît cet endroit, mais c'est un endroit absolument, enfin, c'est d'une modernité incroyable, avec des machines, enfin, c'est un endroit super, quoi, gros. Eh bien, ils n'ont pas de boulot, ils sont au chômage parce que, parce que tous les boulots qu'ils faisaient avant sont pris par les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, etc., parce que c'est la crise, et que, du coup, les gens qui y sont doivent être occupés autrement. Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est que le travail n'est pas thérapeutique, ok ? Par contre, il faut être occupé d'une manière ou d'une autre avec des choses qui nous intéressent. Ça, oui. Je pense que le travail, maintenant, devient de plus en plus contraignant parce qu'il y a de moins en moins de gens qui y trouvent leur compte. Et je ne vois pas pourquoi les personnes autistes, on devrait leur faire miroiter le fait que eux, ils seraient mieux dans le monde du travail, alors que peut-être que, comme disait Claire tout à l'heure, peut-être c'est plus important de chercher comment on peut être bien, sans forcément viser quelque chose qui est un peu, je dois dire, actuellement, au jour d'aujourd'hui, un mythe. Peut-être qu'il y a 30 ans, non, parce qu'il y avait du travail, c'était le plein emploi. Mais maintenant, le monde du travail est un monde très, très, très violent, très, très violent. Voilà.
Nous allons... J'ai peut-être une minute, monsieur voulait s'exprimer, là, devant moi. Vous avez un micro. Et puis, ça sera la dernière intervention.
Oui, très rapidement. En ce qui concerne la réalité du monde économique, c'est clair, même s'il y a 3% de postes réservés pour les travailleurs handicapés, les entreprises préfèrent plutôt payer des amendes. Hein, bon, ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a juste une chose. Il y a tout un réseau extrêmement intéressant, me semble-t-il. C'est le réseau des entreprises d'insertion par l'économique, qui est un tremplin pour pouvoir accéder. Et là, effectivement, dans différents domaines d'activité, il y a embauche de personnes, je pense, qui portent des handicaps comme ceux qu'on vient de parler ce soir. Je voulais surtout vous dire rapidement sur une autre question.
Rapidement.
Il me semble, je crois que nos idées sont la réalité de demain, sont notre propre réalité de demain. Partant de là, est-ce que vous pensez que les sentiments, les ressentis que peuvent avoir les personnes autistes, comme dit Louise Hay, par exemple, dans un ouvrage, elle dit certains sentiments tels que celui d'anxiété très forte, crée des maladies de cancer. Est-ce que vous pensez que certains comportements, certains ressentis très forts, certains sentiments, certaines idées qui habitent les personnes avec ce handicap peuvent créer une réalité difficile comme celle que vous nous avez décrite ce soir ? Par exemple, est-ce que ça, c'est un domaine dans le fonctionnement des connexions neuronales, je sais pas, est-ce que ces idées peuvent, si on est anxieux, est-ce que ça va produire une maladie ? De même, voilà un petit peu ce à quoi je pensais.
Alors moi, donc mon expérience personnelle, c'est que oui, par le stress et l'anxiété, je peux me provoquer des maladies, par exemple, en septembre, mi-septembre, avant de reprendre mes études, j'ai eu une crise d'appendicite. Et il y a de fortes chances que ce soit psychosomatique. Pourquoi il y a...
Ah, c'est peut-être moi.
Donc psychosomatique, il y a de fortes chances pour que ce soit psychosomatique. Pareil, quand j'étais petite, quand j'étais stressée ou juste un petit peu enrhumée, ou et voilà, qu'on allait dans un magasin, dans une grande surface, hein, basiquement faire des courses souvent assez lourdes avec mes parents. Il arrivait très souvent que je tombe dans les pommes. J'avais plus de pouls, plus de tension, plus de sucre, plus rien, bref. Bref, donc je passais 24 heures en observation aux urgences. Donc voilà, donc oui, il y a des troubles, ça se traduit. Oui, moi, mon anxiété se traduit par des troubles physiques, voire des réelles maladies. Voilà.
Je suis désolée, mais on m'a rappelé qu'on devait rendre la salle. Donc peut-être que chaque personne va pouvoir conclure comme on le fait habituellement, pour un mot ou deux, si vous voulez conclure, chacun à votre tour, de façon rapide. Rapide.
Alors, je commence donc vite fait. Donc moi, j'étais très contente d'être avec vous ce soir. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre.
Merci. Allez, chacun va. Oui, on peut peut-être terminer. Quelqu'un veut y ajouter quelque chose ? Oui ?
On espère que nos témoignages vous ont apporté.
Certes.
Pour ma part, c'était une première.
Beaucoup. Voilà. Nous vous remercions de vos témoignages. C'était vraiment très intéressant. Oui.
Moi, je suis contente d'être venue et j'ai surtout retenu quelque chose, c'est que l'autisme, il est un, avec des différences de QI, des pathologies différentes, mais c'est surtout les systèmes de communication et d'appréhension du monde qui sont les mêmes. Et donc, voilà, c'est une chose que j'ai appris aujourd'hui en écoutant les personnes Asperger et j'ai été très émue de les écouter et de les entendre. Voilà. Et je vous remercie.
Je tiens juste à remercier toutes ces personnes que j'ai forcées à être là ce soir, sur ce plateau que je souhaitais représentatif, différentes problématiques, différentes spécialités, et puis de tous ceux qui, dans la salle aussi, sont venus pour des raisons représentatives, personnelles et de témoignages, parce que merci à tous d'être venus pour cette soirée.
Oui, excusez-moi, je vous rappelle que le 9 avril, nous aurons un film à l'Astrée à 20h30 sur les terres australes antarctiques. Françaises. Voilà, le 9 avril à 20h30 à l'Astrée, suivi d'un débat, comme tous les films scientifiques.